On lui parle tous les vendredis de The Athletic. Arpin Basu est avec nous. Arpin, comment ça va?
Ça va, les gars, ça va. Comment ça va, vous autres?
Ça va bien, Arpin, ça va bien.
La ville est vibrante en ce moment.
Pas juste ça, on a vu Arpin à New York la semaine dernière.
Ben oui, on t'a vu!
Ben oui, pour la première fois, c'était une fois. C'était comment le match à New York?
C'était un beau match.
Ouais,
c'est un beau match.
Les arbitres, ils ont volé
le match. Non, le match de foot, je veux dire, le match de football.
Tranquille, je te dirais.
Ouais, ben, non, le match était parfait, mon équipe a gagné.
Ah, OK. C'est beau.
Mes Seahawks ont gagné.
C'est tranquille, c'est tranquille. Rappelle aux gens ton équipe de football, Arpin.
Moi, je suis un fan des Dolphins de Miami. Ça me rend triste à chaque année. Ouais. Mais là, ils vont bien, là. Ils vont bien dernièrement, ouais, puis j'ai espoir.
Tu veux-tu te joindre à mon équipe, les Seahawks?
Ouais, il est fan des Dauphins, il vient de te le dire.
Mais attends, il peut changer.
Ben non, c'est un fan de longue date.
Non, depuis, écoute, si j'ai pas lâché les Dolphins à date... Je suis un fan depuis que j'ai comme 6-7 ans, depuis que je suis kid. Je lâcherai jamais.
Ça, c'est un
vrai. Honnêtement, ils m'ont donné plein de raisons de les lâcher, puis je ne l'ai pas fait encore, alors je vais les garder.
Si je te donne un chandail?
Pardon?
Si je te donne un chandail?
Des Seahawks? Ouais. Non. Non, non, moi, je suis un fan des Dolphins. Je suis pas sur le marché, là. Je suis pogné avec eux.
Il essaie avec tout le monde,
le
Arpin.
Le pire, c'est que mon fils a demandé un chapeau des Dolphins, puis là, j'étais comme, non, qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. Trouve une autre équipe.
Pourquoi tu veux pas cette équipe-là? Ah, oh, tu veux pas que ton équipe, prenne la même équipe?
Je veux pas qu'il passe sa vie comme moi, j'ai passé ma vie en regardant une équipe qui gagne jamais rien, qui est toujours 8-8, puis ils font
rien. Hey, Arpin, ça pourrait être pire, là. Ça pourrait être les Jets ou les Bruns, là, tu sais.
Non, non, je sais, ça pourrait être pire, mais ça serait le fun si mon équipe gagnait quelque chose de temps en temps. Là. Ça serait cool. Juste un match en série, là. Honnêtement, juste remporte un match en série, j'aimerais ça.
Je te le souhaite. Je te le souhaite un jour. Regarde, moi, je suis fan des Bengals depuis que j'ai 6-7 ans. Fait que j'ai connu un peu de plus, mais j'ai jamais connu le gros titre, mais au moins, on a gagné quelques matchs éliminatoires, tu sais.
Ouais, t'étais dans le gros match, là, au moins, une couple de fois, là.
Patrick Laine qui marque encore 2 buts en 2 matchs, qu'est-ce que tu penses de son jeu? Après cette longue absence, puis je parle pas juste des buts, mais de son jeu en général.
Ben, c'est ça. Ses buts et son jeu en général sont deux sujets complètement différents. Puis je trouve honnêtement, tu sais, son match mardi était pas super, mais il fallait pas s'attendre qu'il soit super. Tu sais, honnêtement, il joue un style qui est quand même unique à lui. Tu sais, c'est comme, il a jamais l'air de vraiment patiner trop fort. Il a jamais l'air d'aller trop rapidement, mais sa compréhension du jeu est très intéressante. Ses touches de rondelle, il sait déjà ce qu'il va faire avec la rondelle avant qu'il le reçoit. Alors, je pense que au fur et à mesure que ça avance pour lui, ça va s'améliorer. Ce que j'ai aimé le plus de lui, particulièrement hier soir, je trouvais que son jeu sans la rondelle était très fort. Ses replis défensifs.
Ben ouais, des replis dans les nez.
Ouais, c'est ça. C'est honnêtement, c'était pas ça. T'entends pas ça de Patrick Laine. En fait, t'entends l'opposé de ça. Alors, je trouvais que hier soir en particulier, j'ai beaucoup aimé son jeu sans la rondelle. Le but, tu sais, c'était 5-3, 5-2 vraiment. Alex Carrier avait pas de bâton. Évidemment, on sait tous que Laine est capable de tirer la rondelle, mais les revirements qu'il a provoqués, ses replis défensifs, son jeu, tu sais, le mise en échec contre Zachary Lheureux, il y avait plein de choses qu'il a fait sans la rondelle qui m'a impressionné dans ce match-là. On verra si ça continue. Évidemment, il y a un peu d'adrénaline, puis il veut bien faire, il veut gagner la confiance de ses coéquipiers, son coach. On verra à quel point ça continue. Mais à date, s'il y avait une chose que je dois dire qui m'a surpris ou qui m'a impressionné, c'est ça.
Ouais, on a déjà hâte à la suite. On a fait l'exercice cette semaine pour Patrick Laine, puis on l'a fait avec les auditeurs également, Arpin. Quand on l'a fait, il restait 58 matchs. Bien sûr, il n'avait pas joué un match encore. Là, t'as une petite avance, mais combien de buts puis combien de points, à ton avis, pour lui cette saison s'il joue les 58 matchs?
Moi, je dirais...
Est-ce qu'il marque 20 buts?
Peut-être 20 buts.
OK, il marque 20
Moi,
buts.
Moi, je dirais 20 buts, 15 passes, 35 points. Quelque chose comme ça.
Moi, j'ai dit 20 et 20.
Ouais, j'ai dit 20 et 18.
Mais t'sais, on s'entend que, t'sais, avec le début qu'il y a en plus, je pense que tout le monde est pas mal optimiste avec le 20.
Oh, le 20, je pense qu'on aurait plus de gens qui disent 20 aujourd'hui.
Mais je peux t'assurer qu'il va pas marquer à chaque match qu'il joue avec
quelqu'un. Mais non!
Hey, mais Arpin, pour vrai, là, l'avantage numérique avec Laine, Hudson, puis tu sais, je veux dire, Caulfield et compagnie, à quel point c'est électrisant de voir un avantage numérique qui bouge maintenant?
Ben, ça va être intéressant de voir la suite des choses parce que je trouve que en avantage numérique, je pense pas qu'il faisait ça pour ça, mais j'avais l'impression que, ben, particulièrement les deux derniers matchs, c'est le Canadien toute la saison, c'était pas juste, c'était pas tout le temps Caulfield dans le cercle gauche, c'est pas tout le temps Nick Suzuki dans le cercle droit. Les joueurs faisaient une rotation, ils changeaient de position, ils voulaient être imprévisibles pour l'équipe adverse. Mais je trouve que quand tu ajoutes Laine dans un jeu de puissance qui fait déjà ça, ça va créer d'autres ouvertures. Et moi, j'ai très hâte de voir ce que l'impact de Laine va avoir sur Caulfield. Parce qu'avant Laine, chaque désavantage numérique que les Canadiens affrontaient, priorité numéro un, et c'était de loin priorité numéro un, c'était de couper toutes les lignes de passe à Cole Caulfield. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous battre, vas-y. Mais ce gars-là, il ne veut pas nous battre. Là que tu as Laine ailleurs sur la patinoire, ou que tu as Caulfield ailleurs sur la patinoire, ça va nécessiter des failles dans un désavantage numérique. Parce que là, il y a deux priorités. Et c'est ça que j'ai hâte de voir. Comment est-ce que ça va impacter Caulfield? T'sais, les deux buts que Laine a marqués étaient dans le cercle gauche, dans le bureau de Caulfield. Caulfield était l'autre bord de la glace sur le côté droit, au moins hier soir. Là, je pense que mardi était pas mal proche de Laine, mais comment ils vont gérer la circulation et créer de la confusion avec pour le désavantage numérique adverse, ça va être super intéressant. Puis je pense que l'arrivée de Laine peut mener à beaucoup plus d'opportunités pour Cole Caulfield qu'il a vu depuis qu'il a commencé sa carrière à Montréal, parce qu'il n'y a jamais eu une menace aussi dangereuse que Laine sur la glace avec lui en avantage numérique toute sa carrière.
C'est beau à voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une première vague comme ça, divertissante à ce point-là. L'envers de la médaille maintenant dans les unités spéciales, le désavantage numérique. On en a parlé. C'est moins sexy d'en parler, là, le désavantage numérique, mais c'est solide.
Il faut le faire.
Ben oui. Hier, c'était phénoménal. Je veux dire, écoute, tu fais ça sans gouler en plus. Depuis une couple de matchs, c'est la même chose. Il faut donner quand même une belle tape dans le dos au désavantage numérique du Canadien.
Ben, c'est sûr. Puis une belle tape dans le dos de Stéphane Robida, parce que c'est vraiment son unité à lui. Puis les attaquants, je trouve, font un travail extraordinaire sur le désavantage numérique. Puis, je sais pas si je vous ai en parlé, mais je trouve que le changement de stratégie pour eux, tu sais, l'année passée, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont fait ça très bien, et ils mettaient beaucoup de pression très profondément dans zone adverse. Ils rendent la vie difficile pour un avantage numérique de sortir de leur zone puis de pénétrer la zone défensive du Canadien. Cette année, ils ont décidé de plus faire ça. Ils donnent quasiment la moitié de la glace. Ils disent, si tu veux passer jusqu'à la ligne rouge, vas-y. Puis attends qu'ils arrivent à la ligne bleue. Puis là, ils attaquent, puis ils créent des points de pression. Puis entrer dans la zone du Canadien est rendu beaucoup plus difficile à cause de ça, parce que c'est comme ils font un trap au basketball. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est comme un half-court trap. Tu attends que l'équipe adverse dépasse la ligne au milieu où tu peux pas retourner. Puis là, tu amènes deux personnes sur la balle, puis tu crées des revirements. Puis je trouve que le Canadien fait ça très bien. Puis hier, en particulier, sans Gouli, tu apprends ça en fin d'après-midi. Justin Barron n'a même pas fait le warm-up. Puis il a joué, mais je trouvais qu'Arber Jacky a rempli le trou créé par Gouli très bien dans ce match-là, puis a continué à jouer du hockey très inspiré, puis intelligent, puis efficace, qu'il fait depuis 8-10 matchs maintenant. Mais hier soir, c'était vraiment un de ses meilleurs matchs de l'année, puis mardi soir aussi. En fait, cette semaine, c'est la meilleure version de Jacky qu'on a vu cette saison.
Toujours en conversation avec Harpon Basu. Harpon, Montembeau, man, encore une autre victoire. Un but accordé seulement à ces deux derniers matchs. À quel point tu es impressionné du jeu de notre gardien en ce moment?
Ben, c'est sûr qu'il joue bien. Il est pas son troisième blanchissage de la saison. Rejoint Connor Hellebuyck comme les meilleurs à ces catégories-là dans la ligue. Je trouve que C'est clair que la façon que le Canadien joue devant lui a un gros impact sur ses résultats. Avait un gros impact sur ses résultats quand ça allait moins bien pour lui. La qualité des chances qu'il voit est beaucoup diminuée, mais je pense que le jeu de Sam aussi s'est calmé un peu. Il est pas aussi actif dans son demi-cercle. Il arrive en avance quand il reçoit un lancer. Je trouve que en termes de l'intelligence de ses actions et de ses mouvements, c'est amélioré depuis le début de la saison. Puis honnêtement, depuis le match contre Vegas, pas mal. Je trouve que c'est le bon vieux Sam. Puis honnêtement, c'est pas juste cette saison. Ça fait 2 saisons maintenant que il a l'air d'un vrai gardien numéro 1 de la Ligue nationale. Alors puis j'étais content pour lui qu'il reçoive l'appel pour aller rejoindre l'équipe Canada. Je pense que c'est plutôt, ça démontre à quel point le Canada n'a pas beaucoup d'options à cette position-là. Avec tout respect à Sam, c'est pas comme si ses chiffres étaient vraiment méritants pour cet honneur-là, mais la façon qu'il joue maintenant. Je pense qu'il a mérité cet appel-là, puis je pense qu'ils ont reconnu. Écoute, Carl Dubis l'a vu à maintes reprises. Hockey Canada le connaît. Alors, je pense que c'est mérité.
T'as dit quelque chose de super intéressant sur le fait que Hockey Canada le connaît. C'est comme pas la première fois, là. De toute façon, il a gagné là-bas au championnat mondial. Ce qui nous amène à parler de, entre autres, Bob Stauffer à Edmonton et les commentaires qui ont été émis là, du côté d'Edmonton sur le fait que Montembeau. Ça prenait un francophone. Ça prenait un Québécois francophone dans cette équipe-là. Tu penses quoi de cette déclaration-là?
Ben, je pense que Bob est découragé pour Stuart Skinner plus que d'autres choses.
Exact. Je suis d'accord avec toi.
On a dit la même
C'est
chose.
quand même,
Ouais.
c'est l'employé des Oilers, il faut se rappeler. Mais non, je pense pas que Sam Montembeau a été pris parce qu'il est francophone. Je pense pas que Hockey Canada est obligé de prendre un francophone
Exact.
québécois. Même si idéalement, oui, tu auras des joueurs de partout dans le pays, mais je pense qu'il essaie de bâtir la meilleure équipe possible. Puis je pense que le fait que non seulement qu'il est allé au championnat du monde, non seulement qu'il a gagné la médaille d'or, mais qu'il a été nommé le joueur le plus utile de ce tournoi-là, il a vraiment démontré qu'il est capable de jouer sous cette pression-là. Parce que le tournoi des quatre nations, c'est quand même particulier. Là, tu perds un match, t'es pas mal out. Tu peux pas perdre. Tu joues une fois contre chacun des 3 autres équipes, puis les 2 meilleures équipes après ces 3 matchs-là jouent en finale. Alors, si tu perds un match, ton tournoi est quasiment fini, là. Alors, non seulement que je pense que à cause de ça, je pense pas que Hockey Canada va essayer de jouer la politique avec ses choix de joueurs en termes de choisir un Québécois. Ils vont aller vraiment sur le mérite. Puis s'il y a une position où il va pas niaiser, c'est la position de gardien. Effectivement, à cause qu'ils sont tellement faibles à cette position-là, il veut donner toutes les chances au monde d'avoir un gardien qui est capable de jouer sous cette pression-là. Puis Sam Montembeau a démontré à Hockey Canada qu'il est capable de le faire.
S'il continue sur cette lancée-là, est-ce que tu penses qu'il peut être partant ou les choix sont déjà faits?
Oh non, je pense pas que les choix sont faits du tout. C'est honnêtement, il y a une trentaine de matchs avant que le tournoi commence. Puis je pense vraiment, à cause de ce que je viens de dire, à cause du fait que le Canada ne peut pas se permettre de perdre un match à cause de leur gardien, ils vont prendre le gars qui joue le mieux au moment où le tournoi commence, je suis convaincu. Alors Sam, il y a 30 matchs pour prouver que c'est lui qui devrait avoir le filet, tout comme il y a 30 matchs pour Binnington, tout comme il y a 30 matchs pour Hill. Mais je pense pas que ça, c'est décidé du tout. Écoute, il y a probablement plein de décisions qui sont déjà prises. Il y a probablement des trios qui sont déjà formés. Il y a des duos en défense. Il y a le 13e attaquant. Il y a le 7e, le 8e défenseur. Mais dans ce cas-là, en termes des gardiens, je suis convaincu que c'est une compétition qui est wide open, qui est ouverte et que Sam a vraiment une opportunité au cours des 2 prochains mois de prouver que c'est lui qui mérite sa place devant le filet puis il y a une vraie opportunité pour lui. Je suis convaincu.
Passons à un autre dossier, mais restons à la Coupe des Quatre Nations. On en a beaucoup parlé cette semaine. Bon, Suzuki qui n'est pas là. De la misère à le digérer, Suzuki, d'ailleurs, qui vous en a parlé cette semaine. Cole Caulfield non plus n'est pas là. Il y a eu plusieurs oubliés là, pour, entre autres, le Canada et les États-Unis. Si on te demande, toi, tes grands oubliés sur ta liste pour le Canada et les États-Unis, c'est qui?
Ben, Honnêtement, Suzuki serait un pour le Canada juste parce que, tu sais, ils ont pris Seth Jarvis il y a 22 ans. C'est un très bon joueur. Moi, je trouve que Suzuki, depuis le début de l'année passée, ou peut-être depuis décembre, depuis un an, jour pour jour, plus ou moins, a démontré en termes de centre de 200 pieds, là, c'est un des meilleurs au Canada, parmi les Canadiens. C'est un gars qui est capable de tuer des punitions, il est capable de jouer à l'aile, il l'a fait comme recrue, ça fait longtemps qu'il l'a pas fait, mais il est capable de le faire. Évidemment, il peut jouer au centre. Si tu veux prendre le 13e attaquant, je pense que Suzuki peut combler beaucoup plus de rôles que Seth Jarvis, à mon avis. Mais ça ne veut pas dire que Seth Jarvis est un mauvais joueur ou un mauvais choix. Mais pour moi, c'est Suzuki du côté du Canada. Du côté des Américains, moi, j'étais surpris que Tage Thompson n'ait pas pris, puis j'étais surpris qu'ils ont pris Chris Kreider. Avec la saison qu'il connaît à New York, ça va pas bien pour lui. C'est un gars qui est reconnu comme étant un gars qui peut se mettre devant le filet en avantage numérique. En fait, il est un des meilleurs de la ligue à ce job-là. C'est un job que tu aurais pu donner à Tage Thompson, qui connaît une très bonne saison, qui est un joueur quand même assez unique, à 6 pieds 6 et avec les habiletés qu'il a. Tage Thompson, pour moi, avant Cole, c'était le gars qui m'a surpris le plus qu'il ne soit pas nommé à l'équipe américaine.
T'as
Merci,
raison.
Harpen.
Harpen, toujours un plaisir. On te souhaite un super week-end. Le Canadien gagne en fin de semaine contre les Caps ou non?
Non.
Ça, on pense pareil.
Ouais.
Désolé. Bon week-end quand même.
Ben non,
on a la même prédiction.
On a pris
toi.
Les Caps sont bons
ouais.
sur la route en plus. Hey, bon week-end,
ben,
Harpen. On se reparle la semaine prochaine.
Okay. Salut, les gars.